voici de retour sur les ondes de Radio Galère 88.4 à Marseille et sur Internet et sur le DAB+. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bonjour à Roselyne qui est sous son casque. Mais oui, ce n'est pas un casque de chantier, c'est un casque...
Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices et bonne bonjour. Émission. Et merci Bernard pour tout ce que tu nous apportes.
Ben, je vais essayer de continuer d'être à la hauteur de vos attentes. Et bonjour à Bib.
Bonjour les auditeurs, bonjour tout le monde.
Avec plaisir. Alors, je me souviens qu'il y a quelques semaines, je vous avais dit que quel que fût le résultat des élections présidentielles, entre le moment de l'élection et le moment de la prise de pouvoir par le nouveau président, qui est fixé constitutionnellement au 20 janvier de l'année 2025, nous rentrerions dans une période de troubles permanents. Alors, nous y sommes, mais au-delà de toutes mes attentes, c'est-à-dire le trouble est généralisé, et on va prendre les sujets les uns après les autres pour montrer qu'effectivement, il y a de la difficulté dans toutes les situations, il y a des histoires qui ressortent, qui sont inattendues, il y a des tas d'aspects. Bon, je vais les prendre, si je peux, les uns après les autres, mais tout est mélangé, en fait, parce que dans cette espèce d'énorme confusion, ce marasme de la politique internationale, sans parler, mais ça, vous le savez quotidiennement, du marasme dans les affaires économiques de notre pauvre pays. Je dis notre pauvre pays, je ne dis pas notre pays pauvre. Hein, vous avez bien senti la nuance. Notre pauvre pays, comme on dit, c'est très marseillais. Oh, le pauvre, on dit, c'est quelqu'un qui a des ennuis. Bon, ben notre pauvre pays, il a des ennuis parce qu'il est gouverné par des gens qui ne pensent qu'à eux et à leurs amis banquiers, mais il n'est pas pauvre. Il y a de l'argent dans ce pays. Le problème, c'est de savoir où il va et à qui il profite. Autrement, il y en a assez, très largement, pour tout le monde. Il est très, très mal réparti. C'est une des réflexions que nous devons avoir en permanence et que nous devrions imposer à toutes les échéances électorales. L'inégalité de revenus et de traitement. C'est la même chose. Hein. Le traitement, c'est lié aux revenus. On vous respecte parce que vous avez un salaire, un pouvoir d'achat, un logement, un loyer, etc. On ne vous respecte pas si vous avez des difficultés financières et même on vous enfonce. Bon. N'épiloguons pas, ceci est connu. Alors on va commencer par ce qui me paraît, du point de vue de la politique internationale, la plus importante nouvelle de la semaine écoulée. Il se trouve qu'une belle nuit de cette fin d'automne, la Russie a décidé de répondre aux attaques lancées sur son territoire par les Ukrainiens, je mets ça avec les guillemets de nécessaires, sur son territoire avec des fusées, des missiles de moyenne portée qui sont venus atterrir un peu au-delà de la région de Koursk, mais pas très très loin à l'intérieur du territoire de la Fédération de Russie. Et on en était là, donc, et la Russie avait très clairement affiché, par la voix de son président lui-même, qu'au cas où il y aurait effectivement une intervention d'un pays de l'OTAN qui aiderait l'Ukraine à lancer ses tirs, alors là c'était avéré, puisqu'en fait les missiles étaient des missiles fournis par les États-Unis, qui les avaient annoncés, donc on savait que les États-Unis avaient fourni, et on savait qu'il était nécessaire que ces missiles, pour arriver à destination, soient guidés depuis le ciel par des avions de l'US Air Force. Bon. Donc il n'y avait pas le moindre doute, c'était signé, en plus les Russes qui sont très très sérieux dans leurs recherches et dans leurs enquêtes, ont trouvé des morceaux de ces 10 missiles, ils ont photographié, donc made in USA, tout à fait, c'était tout à fait clair. Donc la riposte russe était annoncée, dans ce cas-là, nous frapperons en riposte. Et nous frapperons depuis sur l'endroit qui a été l'endroit d'où est parti le tir. Et donc dans cette nuit, donc il est parti de Russie, presque rien, un seul missile avec 6 têtes, c'est qu'on appelle ça des mirs de bombe. Donc un seul missile avec 6 têtes qui est allé attaquer une usine d'armement dans la région, dans la banlieue de la ville de Dnipropetrovsk. Alors Dnipropetrovsk, c'est une ville qui est encore sur le territoire ukrainien, un peu à l'écart du front et des batailles, donc où les Ukrainiens pouvaient penser qu'ils étaient tranquilles. Ces 6 têtes de missiles se sont enfoncées profondément dans le sol, n'ont pas fait beaucoup de fumée, ni beaucoup de... Oui, ce qu'on voit classiquement dans les explosions de missiles, c'est une colonne de feu qui monte, de la poussière en quantité et tout. Là, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il se trouve que les Russes, petit à petit, ont commencé à diffuser l'information, à la distiller par petites touches. Il s'agissait, en fait, de têtes de missiles qui étaient remplies de vieilles ferrailles. C'était donc un tir destiné à montrer que ces missiles, qui étaient hypersoniques, ne pouvaient pas être interceptés par la défense ukrainienne et par la défense de l'OTAN. Ils les ont peut-être vus passer, mais de toute façon, ils n'ont rien pu faire, et que ces missiles pouvaient s'enfoncer profondément dans le sol. C'est exactement ce qu'ils ont fait. On a vu les 6 points d'impact et tout ça est rentré, effectivement, pas de fumée, pas de poussière, rien du tout. Ils sont allés très très loin. En clair, et je mets ça en clair, ça veut dire que n'importe quel bunker à quelque profondeur qu'il soit sur le territoire ukrainien peut être atteint par ce type de missile avec autre chose que de la ferraille à l'intérieur. Ouais. Alors, vous m'avez entendu, Volodymyr Zelensky ? Est-ce que vous m'avez bien entendu, Volodymyr Zelensky ? Le prochain bunker, ça peut être toi. Hein ? Et là, tout ton état-major, tout le monde y parle. Alors, t'es caché dans ton trou, comme un rat que tu es, hein, mais tu es caché dans ton trou et tu mourras si on le décide. C'est-à-dire que tu ne pourras rien faire. À moins que tu changes de politique ou à moins que tes sponsors te disent changer de politique. Bon, alors les sponsors, je n'en attends rien, puisque les sponsors, c'est soit des hypocrites, c'est la bande à Biden, hein, on dit « Ah, comme c'est dommage, on aimerait bien que, etc. » mais on fait exactement l'inverse et on livre l'armement. Soit c'est des dangers publics que sont en train de devenir, je le dis à tous les citoyens français qui nous écoutent, le Premier ministre britannique et le président de la République française sont en train de devenir des dangers publics pour tout le continent européen. C'est-à-dire que sans aucun contrôle d'aucune instance politique, je pense au Parlement par exemple, ils se mettent à dire « nous allons attaquer la Russie ». C'est-à-dire à tenir un discours délirant, proprement délirant. Parce que vous avez compris que la Russie s'affronte à l'OTAN depuis maintenant 2 ans et que l'OTAN n'arrive pas à détruire la Russie. Donc que la France toute seule et la Grande-Bretagne toute seule disent « je vais attaquer la Russie », c'est complètement stupide. Mais... ça, ils le savent, et les militaires qui les entourent et qui les conseillent le savent aussi, même s'ils ne le disent pas à la télévision. Mais le problème, c'est qu'on dit à longueur d'antenne sur les écrans, dans les radios, la Russie veut attaquer l'Europe, la France et la Grande-Bretagne. Ce discours n'a aucun sens. D'abord, il n'y a jamais eu d'annonce de ce qu'ils allaient faire, et puis... est-ce que la Russie, qui est le plus grand pays du monde, qui a des ressources en tout, qui a une agriculture très très avancée, qui a des technologies de guerre très très avancées, on en a la preuve, des technologies dans la chimie très avancées, de quoi est-ce que la Russie a besoin de venir en France pour ramasser quoi ? Des restes de nos industries défuntes, des restes de nos hôpitaux sans personnel ? Mais raisonner 2 secondes. On vous fait croire que la Russie va envahir la France. Mais la Russie, elle n'a pas à s'embêter. Ce n'est pas un objectif pour elle. Elle aimerait bien que la France soit un peu plus... enfin, pas la France, que le gouvernement français soit un peu plus raisonnable et modéré. Mais elle n'a pas besoin des richesses françaises qui sont en train d'ailleurs de s'évanouir sous nos yeux. Premier travail... reprenez le contrôle de vos neurones dans votre tête et si on vous dit la Russie veut attaquer la France, partez d'un immense éclat de rire. C'est simplement pas sérieux du tout. Mais le problème, c'est que ça a des conséquences parce que quand Macron vous dit ça, ou les gens qui l'entourent, ou les gens qui aboient pour son compte, quand Macron vous dit ça, ça veut dire que derrière, il y a des décisions qui sont prises, y compris des décisions budgétaires. Et quand le Parlement vote des lois et un budget pour l'année 2025, et y compris le budget de la sécurité sociale qui est impacté aussi, et qu'il met beaucoup d'argent pour soi-disant attaquer la Russie, c'est-à-dire c'est de l'argent jeté en l'air, et qu'il ne met pas assez d'argent là où il y en a besoin, vous le savez, dans les écoles, les hôpitaux, je ne refais pas ce discours, il est connu. C'est là que se fait le choix. Donc, en fait, le gouvernement français est complice de cette espèce d'intoxication consistant à dire « la Russie veut nous attaquer ». Mais la Russie n'a pas besoin de la France. Pourquoi faire ? Ben, on se prend pour le centre du monde. On ne l'est plus. La France n'est plus le centre du monde. Donc, regardez autour de vous. D'abord, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, beaucoup mieux que nous, qui le disent. Des gens au Sahel, des gens au Burkina, des gens en Côte d'Ivoire qui disent « mais la France, c'est pas le centre du monde ». Eux, ils ont fini par comprendre. Eh bien, il faut que vous, citoyens français, vous comprenez aussi, la France n'est plus centre du monde, elle doit trouver une place qui peut être honorable, qui peut être respectable, mais évidemment pas celle qu'elle occupe aujourd'hui. Donc c'était la première donnée. Donc la Russie frappe et elle dit voilà, j'ai cette arme-là, je peux m'en servir quand je veux, et puis je peux, à la place de l'ogive où il n'y avait que des morceaux de ferraille, mettre autre chose. Alors là, tout le monde panique, aïe, 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 qu'est-ce qu'ils vont mettre? Alors, il n'y a pas forcément une bombe atomique dedans. On peut mettre simplement des explosifs classiques pour détruire un bunker. Et puis, de toute façon, il faut bien comprendre, et ça a été écrit, dit et redit, par le président russe, par le ministre des Affaires étrangères, par le ministre de la Défense, nous ne prendrons jamais l'initiative de l'usage de l'arme nucléaire. Voilà. Nous n'utiliserons l'arme nucléaire qu'en riposte à une attaque nucléaire.
Nucléaire.
Donc ça, c'est parfaitement clair. Donc, tous ceux qui nous disent « Ah, la bombe atomique, les Russes, etc. » ne savent pas ce qui a été écrit, ce qui a été totalement entériné par les autres, parce que ce que je dis là, la Russie n'attaquera jamais avec l'arme nucléaire en premier. Biden le sait, le Premier ministre britannique le sait, Macron le sait, tous les militaires américains le savent. C'est une donnée et... De ce point de vue-là, ce qu'il faut, à quoi il faut qu'ils s'habituent, c'est que quand la Russie annonce par la voix de son président une position extrêmement claire sur une question qui intéresse la totalité de l'humanité, elle ne le fait pas pour dire « c'est un effet d'émission, je fais un bug ». Non, pas du tout. Elle le fait parce qu'elle prend ses responsabilités en tant que première puissance ou deuxième puissance militaire mondiale. Et elle dit « voilà ce à quoi l'humanité est exposée, je mets les cartes sur la table, tout le monde peut juger. Mais je ne raconte pas n'importe quoi, un jour oui, un jour non, j'hésite, je vaticine et tout ». Non, ce n'est pas comme ça. Alors bien entendu, on dit « ah oui, mais c'est Poutine ». Alors regardez, nous, dans cette émission et pour la préparation, on a l'habitude de suivre ce que dit le président de la Russie depuis le temps où il a pris le pouvoir. Et en fait, il ne dit rien à la légère. Et il ne dit rien pour faire des effets, pour faire croire, pour faire pression. Non, il dit, voilà ce que je veux faire. Je suis chef d'un État qui est la première puissance militaire du monde ou la deuxième. Alors, la première en termes de capacité, évidemment pas la première en termes de budget, mais la preuve est que le budget ne suffit pas à avoir des armes performantes, puisque le budget des États-Unis militaires dépasse celui de tous les autres pays du monde, mais les résultats ne sont pas là, ce qui veut dire que le système lui-même ne fonctionne pas bien. Bon. Voilà donc pour cette première donnée de la situation internationale. Et alors, cette donnée produit un effet petit à petit, se répand, et puis tout le monde réagit. Alors, la première réaction, je l'ai dit, c'est celle de Macron et Starmer, qui est une réaction stupide. Ah, c'est à nous qu'incombe maintenant la responsabilité de détruire la Russie. Alors, bon voyage, messieurs, hein, pensez à Bonaparte, pensez à Hitler, vous mettez dans cette peau-là. Ah, monsieur Macron, en fait, se prend pour Hitler, quelque part, en juin de 1941. Il nous a pas, c'était pas dans son programme. Alors, dans son programme, il nous met, on va honorer l'historien de Marc Bloch, comme un maître au Panthéon et tout. Ça, c'est le cinéma macronien, comme Sarkozy avait fait entrer au Panthéon le jeune Guy Môquet. Ça faisait partie du cinéma. C'est rien d'autre. Hein. Parce que M. Marc Bloch, il a très bien dit que les élites françaises avaient été complices des nazis. Ça, on ne le dira pas trop, peut-être au moment de la panthéonisation de Marc Bloch. Mais c'était ça la réalité de ce qu'avait écrit, à mot très couvert, parce qu'il était prudent et tout. Mais il était tellement prudent que quand même la milice lui a fait la peau à la fin de la guerre. Donc ça fait partie du cinéma macronien, c'est-à-dire dire blanc, le noir, le rose, le vert, toutes les couleurs. Et avoir une politique qui est celle « je fais ce que je veux, je décide ce que je veux sans aucun contrôle ». Alors quand il dit, parce qu'il le dit maintenant, « la France va attaquer la Russie », je dis « on a affaire à un dérangé ». C'est tout. Mettez-vous bien ça dans la... Alors on le sait, le problème c'est qu'il a un gouvernement qui lui obéit encore pour un certain temps. On verra. Bien. Alors ça, c'était la première grosse nouvelle, et puis tous les effets, la diffraction qu'elle va engendrer. Je vais passer à la deuxième nouvelle, qui est importante et qui mérite qu'on s'arrête. C'est la décision finale. Enfin, la Cour pénale internationale a décidé de lancer les deux mandats d'arrêt demandés contre donc Benjamin Netanyahou et contre son ex-ministre de la Défense, Gallant.
Et le Hamas.
Alors, voilà, je vais faire l'équilibre. Alors, ces deux-là sont clairs. Alors, là, sur la première réponse. Alors, la réponse, c'est en Israël, on dit, mais c'est pas possible, ils ont osé. Il a osé, puisqu'on s'en prend au procureur qui a lancé ses deux mandats d'arrêt. La réponse aux États-Unis va bien au-delà, je vais m'y arrêter. Donc, cette position est inacceptable. Et de toute façon, j'insiste là-dessus, parce que ça n'a pas été trop dit, un certain George W. Bush, quand il était au pouvoir, a fait voter par le Congrès une disposition qui permet une intervention militaire des États-Unis au cas où quelqu'un des États-Unis ou quelqu'un qui est un de leurs alliés serait aux prises avec la justice internationale. Ce qui voulait dire en clair, les États-Unis seraient prêts à envoyer, si jamais M. Netanyahou était attrapé et amené dans les geôles de la Cour pénale internationale à côté de La Haye. Les États-Unis ont le droit, ils l'ont écrit, ils ont fait voter le Congrès, d'envoyer un commando parachutiste pour l'exfiltrer. Mais vous rendez compte dans quel monde on est, hein? Bon, c'est-à-dire la décision ne leur plaît pas, et donc on dit, ben on envoie... Mais c'est vrai qu'ils ont tellement la mauvaise habitude d'envoyer des soldats n'importe où, que pourquoi pas. Alors, rappelez-vous que quand ils sont allés chercher ce qui était peut-être Ben Laden, au Pakistan, dans une caserne, ils ont demandé l'avis de personne. Il est arrivé dans la nuit un hélicoptère avec un commando. Ils ont attrapé Ben Laden, ils l'ont emmené. Alors, c'était peut-être pas Ben Laden, on a eu des doutes après. Ils l'ont mis dans un suaire et ils l'ont jeté en mer devant les caméras de télévision. Mais c'est ça leur façon de travailler. Donc, ils disent, de toute façon, il n'arrivera rien à Netanyahou. Puis, de toute façon, même si jamais il était attrapé, on irait le chercher, on irait le sauver. Là, c'est la première réponse qu'il faut bien avoir en tête. Deuxièmement, les chances pour qu'il soit attrapé sont extraordinairement faibles. Sont extraordinairement faibles parce qu'on a beau vous dire, il y a 124 États qui sont signataires de la Cour pénale internationale, qui y adhèrent et qui la financent même, donc qui normalement sont tenus du fait de leur adhésion de l'emprisonner, de le saisir si jamais il met les pieds sur leur sol. Mais il y a aussi, il y a 200 États à peu près sur la planète, ça veut dire qu'il y en a 70 autres qui ne sont pas liés, ce qui est quand même beaucoup. Alors dans les 70 autres, alors il y a évidemment les États-Unis, il y a évidemment Israël, bon Israël ils ne vont pas s'auto-saisir eux-mêmes, il y a aussi la Chine, il y a aussi la Russie, il y a beaucoup de monde dans les... et puis d'autres pays. Et puis il y a le cas alors le plus ahurissant, c'est que l'Allemagne... qui est signataire, qui est membre de la Cour pénale internationale, a dit qu'elle ne le ferait pas. C'est-à-dire que si demain, je ne sais pas s'il aurait cette idée complètement folle, Netanyahou atterrissait à Berlin, on l'accueillera avec le tapis rouge. Le Scholz viendra l'accueillir. Alors, au nom de quoi ? Alors là, je suis un peu inquiet pour la situation mentale des gouvernants allemands. Ça veut dire qu'ils sont, et leur attitude par rapport à ce qui se passe à Gaza l'a confirmé, ils sont dans l'incapacité de... mettre un trait et d'éponger leur passé nazi. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils n'ont pas absorbé ce que le peuple allemand a fait. Alors le peuple allemand, sous les coups de bâton et le fusil dans le dos, je veux bien. Ce que le peuple allemand a fait, c'est très difficile à digérer pour les Allemands encore aujourd'hui. Et ce que je viens de vous dire le démontre. C'est-à-dire qu'on a eu beau faire comme s'ils avaient oublié, ils n'ont pas pu oublier. Et ils ont d'autant moins pu oublier que, en fait, il n'y a pas eu d'épuration en Allemagne. C'est-à-dire qu'il est arrivé, alors à part les quelques condamnés et pendus du procès de Nuremberg, il n'y a pas eu d'épuration. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient eu des fonctions importantes dans le Reich et dans le régime nazi, qui en avaient porté l'idéologie, sont revenus aux affaires, ou bien ils ont été recyclés par les États-Unis et le Canada, par exemple, pour créer la CIA. Tout ça ne doit pas être oublié. Et ça ressort sur un incident comme l'histoire de Netanyahou, puis c'est un incident, c'est-à-dire que l'Allemagne, qui n'a pas réglé ses comptes avec son passé, est entravée par son passé, et donc elle arrive à une position incohérente, c'est-à-dire elle est signataire de la Cour pénale internationale, et elle pourrait, si jamais l'idée lui en venait, laisser circuler Netanyahou librement sur son sol. Alors on l'avait vu, cette position, on l'avait vu venir depuis quelques mois, enfin depuis le début de l'opération à Gaza, mais elle se confirme jusqu'à la caricature, et il faut aller jusqu'au bout de la réflexion que je mène devant vous, c'est-à-dire qu'en fait, l'Allemagne n'a pas réglé son passé nazi. Et c'est à elle de la régler, on ne peut pas le régler. C'est à eux. Alors il n'y a pas eu de commission comme il y a eu par exemple en Afrique du Sud sur l'instigation de Desmond Tutu et de Mandela, des gens qui se regardent dans les yeux et disent « moi je l'ai fait, moi j'étais un nazi fervent, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et j'ai tué votre fils madame, j'ai tué votre fille monsieur, etc. » Ça n'a pas eu lieu. Et donc les nazis ont refait surface, ont été très vite dans des postes de gouvernement en République fédérale allemande, je pense à Adenauer en premier, et bien d'autres. Et donc, en fait, le nazisme fait partie d'une espèce de refoulé allemand qui, là, s'exprime clairement en disant « Netanyahou, on ne le fera rien de mal et on va continuer, en plus, à lui livrer des armes et à lui envoyer de l'argent. Bon. » C'est ça qui est très, très révélateur dans cette histoire de la Cour pénale internationale. Ensuite, ça c'est un autre aspect, c'est que beaucoup de commentateurs de cette décision prise par le procureur de la Cour pénale internationale mélangent un peu, c'est-à-dire ne voient pas qu'on est dans une situation d'un procès en droit. Dans un procès en droit, il y a d'abord une inculpation. Après, il y a un jugement, et puis en fonction du jugement, il y a une condamnation et une peine. Bon. Là, on en est à l'émission du mandat d'arrêt, c'est-à-dire que le procureur et ses services considèrent qu'il y a de bons motifs pour traîner M. Netanyahu et M. Galland devant le tribunal, mais ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'on est au tout début d'un procès qui n'est pas commencé. Et je signale à ceux qui nous écoutent et qui rêveraient que demain matin, Netanyahu soit condamné à la prison à vie, que les procès à la Cour pénale internationale qui donc officient depuis 2000-2001 en gros, les procès durent entre 5 et 10 ans. Entre 5 et 10 ans. Et dans un procès, on est dans un procès au pénal, il y a des avocats de la défense, il y a un procureur qui dit on reproche ça, et la défense est là pour se défendre. Et qu'est-ce que dirait, alors, je les vois venir comme s'ils étaient dans le studio, les avocats de M. Netanyahu disaient, mais on n'a fait que se défendre. C'est le raisonnement qui tient à longueur de temps depuis le début de l'opération Gaza. On n'a fait que se défendre contre les terroristes palestiniens. Bon, alors ça, ils sont prêts à le dire encore pendant 50 ans. Bon, donc le jugement, s'il a lieu, donc ça suppose, M. Netanyahu et M. Galland sont arrêtés. Ils arrivent à La Haye et là, on dit, on commence le procès. C'est-à-dire, ils se choisissent des avocats, les procureurs saisis. Il y a des avocats de l'attaque qui sont là et puis le procès commence. Et je vous dis, les durées, comme c'est des procès lourds avec des traductions, et des experts, etc., le procès peut durer plusieurs années. Alors, on peut rêver. Ça fait plaisir de rêver comme ça en disant « En 2035, M. Netanyahou sera condamné à la prison à vie. » Oui, bon oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. On est content. On dit ben, « Il l'aura pas volé. » On est content, il l'aura pas volé. Alors réfléchissez. Bon, il arrive à La Haye. Il est emprisonné dans les géoles qu'on connaît puisqu'on y est allé pour voir M. Laurent Gbagbo quand il y était. Bon, et puis il est là, il est bien traité. Alors dans les prisons de la Cour pénale internationale, quand même, on fait ça proprement. On a affaire à des chefs d'État, à des premiers ministres et tout. Si ça, ils ne sont pas enfermés dans une geôle, dans une cellule en béton de 1 mètre sur 1. Ils sont relativement bien traités par rapport au statut moyen des prisonniers politiques. Mais c'est tout ce qu'on peut imaginer. Mais pendant ce temps-là, est-ce qu'Israël va changer de politique ? Rien ne le prouve. Rien ne le prouve. Puisqu'en fait, il y a à la place d'avoir M. Galland a été remplacé comme ministre de la Défense et qu'il y a dans l'équipe de Netanyahou des gens qui sont encore plus fous furieux que lui. Pour Israël, c'est à la limite un micro-événement. C'est plus un événement dans la vie de Netanyahou que dans la vie d'Israël. Parce qu'il y a des gens qui ont tenu les mêmes propos racistes, épouvantables que Netanyahou et qui sont encore au gouvernement actuel et qui ont bien l'intention d'y rester. Et ils ont encore beaucoup, beaucoup de poids dans la société israélienne. C'en est au point que, et je le voyais ce matin, que le quotidien Haaretz, je l'ai cité la semaine dernière, je dis que le dirigeant de Haaretz, qui est donc le quotidien de référence de la presse israélienne, qui est considéré comme libéral, c'est-à-dire essayant de maintenir un regard un peu humain sur la situation, est maintenant menacé comme étant à la solde de l'ennemi, en gros. C'est dire les limites de la fameuse démocratie israélienne. Donc voilà, je tenais à faire cette mise au point. Ne rêvez pas, M. Netanyahou n'est pas encore en prison, il n'est pas encore condamné. Il est inculpé et le procès ne commencera que quand on l'aura attrapé. On verra bien. Alors, j'enlève pas la satisfaction politique. Heureusement, la Cour pénale internationale a reconnu qu'il y avait de bonnes raisons de le juger. C'est bien. Bon. Mais ça ne fait pas avancer beaucoup le débat sur le terrain. Il continue, il est toujours là, il est toujours au pouvoir. Il a des amis très puissants. Et puis, il y a la position des États-Unis qui est quand même inquiétante en disant, de toute façon, si vous faites quelque chose à M. Netanyahou, vous en prenez à moi. C'est moi qui défends M. Netanyahou, moi, Biden. Alors, Trump fera, je ne sais pas ce qu'il fera, mais je ne sais pas s'il aura une position très, très différente. Il y a dans son équipe quand même des gens qui sont aussi sionistes que dans l'équipe de Biden, donc on ne peut pas le dire.
Ce qui est important, c'est sur le plan international, où on a mis en cause des personnalités sionistes.
Oui.
Et ça, c'est très, très important quand même.
Voilà, non, voilà. Mais c'est bien, parce que c'est ouais. pour ça qu'il y a un grand écho par rapport à ça. Et en fait, les gens ne s'intéressent pas au procès et à son ouais. déroulement, comme j'essaye de vous le décrire. Donc, il y a une espèce de satisfaction. Non, ce monsieur, il est inculpé, et heureusement qu'il est inculpé. Il aurait finalement, déjà dû l'être depuis longtemps.
C'est ouais. l'État d'Israël, moi.
Voilà, et l'État d'Israël pour la politique qu'il mène. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Donc, il y a un effet psychologique qui est important, ouais. mais ne rêvez pas, Netanyahou n'est pas encore sur le banc des condamné. Et s'il y est un
ça
jour.
C'est vrai.
Et puis, il y a en Israël encore assez de vats en guerre pour continuer l'opération. Donc, c'est pas là que militairement et sur le terrain, ça se joue. Ça se joue dans les opinions publiques internationales et c'est tant mieux de ce point de vue-là.
Ce qui m'étue, c'est quand Netanyahou, il dit « Je défends la démocratie occidentale et américaine ».
Vraiment, on la voit. Incroyable. Oui. Voilà. Et si je suis au tribunal, il y a un commando qui vient m'exfiltrer, c'est ça. Ouais. C'est ça, la démocratie occidentale. Oui. Elle est bien bonne, comme ça. Elle est bien bonne. Voilà, sur cette première partie des choses. Alors, je vais passer maintenant, je regarde. Ah ben non, on va faire la transition là-dessus. On va passer une petite musique. Alors, c'est une musique d'un rappeur français qui s'appelle HK et qui reprend un poème d'un poète palestinien de Rafah qui s'appelait Refat Al-Arer. Alors qui, dès le mois d'octobre 2023, a dit de toute façon... Je suis visé, ils mourront. Et effectivement, ils, comme il dit, bon, les sionistes l'ont eu, puisque deux mois après, donc en décembre, Refat Al-Arer a été abattu par un tir israélien. Mais il a laissé un poème qui a été mis en musique par HK et qui est une très très jolie chanson, très très douce, que je vais vous faire écouter. Et on l'écoutera intégralement parce que ça vaut c'est une façon de parler de Gaza.
Ouais.
Il est écrit quelque part que je dois mourir. Il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, partit subitement sans avoir fait d'adieu à personne. Pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie,
Gaza, Gaza.
Que ton nom soit interdit,
Gaza, Gaza.
Toi l'enfant de Palestine,
Gaza, Gaza.
Qui se relève et qui s'obstine,
Gaza, Gaza.
De tout ton cœur, de tout ton être,
Gaza, Gaza.
À ne jamais disparaître,
Gaza, Gaza.
De cette terre qui t'a vu naître,
Gaza, Gaza.
De ce pays, de tes ancêtres,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui mon cœur est lourd,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui le monde est sourd,
Gaza, Gaza.
Et laisse faire les actes infâmes,
Gaza, Gaza.
Enfant qu'on tue ou qu'on affame,
Gaza, Gaza.
Qui fait semblant de ne pas voir,
Gaza, Gaza.
Qui feint de ne pas savoir,
Gaza, Gaza.
A perdu son humanité,
Gaza, Gaza.
Son honneur et sa dignité,
Gaza, Gaza.
Tu te relèveras, c'est sûr,
Gaza, Gaza.
Tu survivras à tes blessures,
Gaza, Gaza.
et tu verras, oh, dans ton ciel,
Gaza, Gaza,
au bout d'une longue ficelle,
Gaza, Gaza,
comme un ange qui flotte au vent,
Gaza, Gaza,
une toile, un cerf-volant,
Gaza, Gaza,
inscrit dessus en toutes lettres,
Gaza, Gaza,
les derniers mots de ton poète,
Gaza, Gaza,
s'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre, il vous appartiendra de vivre, que ma mort apporte l'espoir, que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire, que ma mort devienne une histoire.
Merci Roselyne. Voilà, comme on dit dans les manifestations, c'est l'humanité qu'on assassine. Bon. Alors je reviens un tout petit peu sur la CPI pour rappeler qu'il y avait entre les mains du procureur des demandes aussi pour inculper des Palestiniens. Ces demandes concernaient, premièrement, M. Ismaël Haniyeh, assassiné par un tir israélien à Téhéran. Ces demandes concernaient M. Yahya Sinwar, assassiné par des tireurs, par des soldats israéliens à Gaza il y a quelques semaines. Elles concernaient enfin un troisième qui probablement est mort aussi, qui s'est surnommé Deif ou Al-Masri, qui est probablement mort d'après ce que dit l'armée israélienne parce qu'il devait être visé. Et avant qu'il était mort, l'armée israélienne lui avait déjà enlevé un bras, deux jambes et un œil. Donc c'était un mort vivant. Alors, il est probablement mort. Donc de toute façon, du côté des inculpations de Palestiniens, la force a réglé le problème. Le droit ne passera pas parce que le droit ne s'exerce pas sur des morts. Les morts sont des assassinés par les Israéliens. Voilà. C'est ça qu'il fallait bien préciser. Parce que la Cour pénale fait effectivement, j'écoute les deux parties, je regarde, il y a eu des morts, des victimes, donc j'essaye de faire une enquête et de voir tous les responsables, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, quand l'autorité palestinienne, donc la Palestine, l'État palestinien, avait adhéré à la CPI, c'est pas très vieux, c'était en 2015, si ma mémoire ne me trompe pas, il avait couru ce risque. Il avait dit, moi, je sais que je pourrais aussi, enfin, ou certains de mes agents, ou de mes représentants, de mes porte-parole, pourront aussi être soumis à cette juridiction. Je prends le risque. Bon, il l'avait pris. Bon, le résultat, c'est que la justice n'a pas pu passer puisque l'armée israélienne est passée avant et que Israël règle les problèmes par la force et pas par le droit. Bon.
Par les crimes.
Et par le crime, exactement. Et je vais passer à un autre dossier, alors qui est un peu une surprise, mais qui mérite qu'on s'y arrête. Il y a eu ce dimanche donc une élection présidentielle en Roumanie.
Ouais.
Alors, elle était programmée, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Alors, la Roumanie, je la situe quand même bien sur la carte. Elle a d'abord plusieurs centaines de kilomètres communes avec l'Ukraine. Elle a une frontière importante avec la Moldavie, qui est elle aussi dans une situation politique un peu trouble. Et donc, la Roumanie est aussi, et c'est très important du point de vue de la France, est l'endroit où la France est responsable des préparatifs de l'OTAN pour attaquer la Russie. Parce que là, c'est là que, enfin, vous savez, il y a eu une répartition des tâches entre la Pologne, la Roumanie, etc. Et en fait, la France a été chargée d'organiser le camp de l'OTAN en Roumanie. Donc on a une responsabilité particulièrement lourde. Et il y a là, on a installé des camps, de tout ce qu'il faut pour qu'il y ait du matériel, des stocks de munitions, des pistes d'atterrissage et tout. Bon, donc là, la France a un rôle très, très central dans ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer en Roumanie. Et voilà, donc l'élection présidentielle intervient comme ça. Là, c'était dans le calendrier. Rien n'a été changé en fonction des événements. Et c'est donc le premier tour. Le second tour aura lieu dans 15 jours. Mais cette élection a été une grande surprise. surtout pour ceux qui attendaient à ce que la Roumanie soit fidèle au bloc de l'OTAN, à la politique de l'Union européenne. Il se trouve que le personnage qui est arrivé premier à ce premier tour, avec 22,95%, enfin pratiquement 23% des voix, était inattendu à ce niveau-là. D'une part parce qu'il a battu le Premier ministre en poste, qui est un pro-européen acharné, et que même ce Premier ministre en poste a été légèrement devancé lui-même par un troisième larron, qui est une larronne en l'occurrence, d'un parti libéral lui aussi pro-européen, qu'on n'attendait pas là. Et donc en fait, il se trouve qu'il reste donc que ce monsieur sur lequel je vais m'arrêter, et l'autre personne, Madame Elena Nasconi, donc cette pro-européenne libérale qui n'est pas de la coalition gouvernementale actuelle. Et je vais m'arrêter un petit peu sur elle pour dire que cette personne est bien entendu très très bien vue en Occident, elle est farouchement pro-EU, pro-Union, pro-OTAN, etc. Mais elle a une faiblesse. Alors vous allez voir à quel niveau va la police politique occidentale. Madame Elena Lasconi a une fille. Bon, jusqu'à là, pas de surprise. Elle s'appelle Oana Lasconi. Eh bien, imaginez qu'on a mis en circulation sur le net des photos de la fille de Madame Lasconi portant un keffieh. Portant un keffieh. Donc, ça veut dire que... Alors, ça, c'est la fille, c'est pas la mère. Mais si la fille, elle est anti-sioniste, parce qu'elle est pro-palestinienne, ça veut dire que Madame Elena Lasconi, elle est mal vue, on se méfie d'elle. Voyez, où va la police politique de l'Occident ? On va chercher une photo de la fille de cette candidate au présidentiel pour dire, attention, méfions-nous, peut-être elle est anti-sioniste. Et donc, à partir du moment où on dit qu'elle est anti-sioniste, elle va bientôt devenir, demain matin, antisémite, et patati et patata, vous connaissez la mécanique. Bon, en espérant qu'elle ne sera pas tuée par un tireur fou quelque part. Bon. Ça, je voulais le dire parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, disons-nous, mais on le sait tous, c'est-à-dire, disons-nous que quand nous manifestons pour la Palestine et pour les Palestiniens, nous savons très bien qu'il y a, parmi tous les photographes qui sont là, il y en a dont les photographies vont aller chez l'adversaire, hein, chez les services de renseignement israéliens. C'est évident. Mais de toute façon, on est en démocratie pour ce qu'il en reste. On dit ce qu'on a à penser. On n'est pas violent. On exprime des positions politiques dans un pays où on peut encore le faire. C'est tout. Hein. Après, qui se servent de nos photos avec qui un keffieh, qui une pancarte. Bon, ça n'a pas d'importance. Hein. Il faut traiter ça par le mépris que ça mérite. Ça mérite du mépris. Le mépris, je l'affiche, je le dis. C'est des manœuvres méprisales de gens qui sont en difficulté politique. C'est tout ce qu'il leur reste. Hein. Faire du flicage, comme on dit, et dire du mal des gens et les mettre dans des fichiers comme adversaires. Bien. Et donc, je reviens quand même sur cette élection étonnante. Alors, le personnage qui arrive là, d'abord, il est sorti de presque nulle part, pas tout à fait. Alors, il a été présenté, alors c'est amusant parce qu'en deux jours, puisqu'entre dimanche et aujourd'hui, les positions ont un peu évolué, le premier jour, il était considéré extrême droite pro-russe. Bon. Et ça ressortait un petit mot, je l'ai lu beaucoup en anglais, en espagnol et tout. Et puis, ce matin, déjà, ça s'était un peu estompé, adouci. Il était surtout pro-russe. Il était un peu moins d'extrême droite. Hein? Bon, parce qu'il va probablement faire avec, et puis aussi bien, il va être élu président de la République. Alors, c'est qu'à moitié grave politiquement, puisque la présidence de la République, dans la constitution roumaine, n'a pas beaucoup de pouvoir, mais elle a quand même beaucoup d'influence, surtout en matière de politique internationale et de politique étrangère. Donc, il vaudrait quand même mieux, pour le camp occidental, qu'ils aient à la présidence quelqu'un qui soit totalement dans leurs mains. Et lui, manifestement, il ne sera pas tellement dans leurs mains. Il ne sera pas tellement dans leurs mains, d'une part, parce que, d'abord, il vient d'un groupe d'extrême droite, mais qui a continué, avec lequel il est en rupture, puisque ce groupe d'extrême droite, qui continue à exister et qui avait lui aussi un candidat à cette élection présidentielle, a quand même eu 14% des voix. Donc, l'extrême droite, ce n'est pas lui, hein, c'est les autres. Et eux, ils sont restés d'extrême droite. Ce monsieur, il a une autre particularité, c'est qu'il est agronome de formation, et qu'il a défendu la paysannerie roumaine contre la politique européenne qui consiste, alors je fais allusion à la question du Mercosur, la politique européenne telle qu'elle est voulue par Bruxelles et par la Commission européenne actuelle, consiste à dire nous ouvrons la porte de l'Europe aux produits agricoles venus de tout le monde entier, tant pis pour nos producteurs européens. Alors ça, ça touche directement les producteurs français, on le sait. Et d'ailleurs, ça embête beaucoup Macron et Barnier parce qu'ils se disent bien que là, ils sont en train de s'embarquer sur un terrain difficile. Mais en Roumanie, c'est la même chose. C'est-à-dire, on dit, ce que les Roumains, ce que la paysannerie roumaine arrive à vendre sur le marché européen, elle pourrait très bien ne plus le vendre dans quelques mois si les produits du Mercosur arrivaient librement à des prix encore plus bas sur le marché européen. Donc ça explique en partie son score électoral. On verra pour la suite. Donc, données très très importantes, monsieur donc Georgescu, puisque c'est comme ça qu'il se présente, a dit d'une part qu'il était en faveur des agriculteurs et qu'il les défendrait, c'est d'ailleurs la base probablement de son électorat, et puis il a dit il n'a pas dit qu'il était pro-russe, il a dit la guerre en Ukraine est une folie qu'il faut arrêter. Alors là, c'est inadmissible. Il dit ça, il est condamné à être insulté à longueur de journal télévisé. Il a dit qu'il fallait arrêter la guerre d'Ukraine. Hein, bon, bien sûr, on l'aime pas. On l'aime pas, le problème c'est qu'il risque d'être élu, on verra ça dans 15 jours. Et puis entre-temps, il y aura dimanche prochain des élections parlementaires. Le Parlement, et donc il y aura un Premier ministre qui va sortir de ça. Ce Premier ministre sera peut-être la maman de la porteuse de kéfier. Alors c'est là que ça deviendra drôle, parce que les médias occidentaux seront plus quoi dire. Est-ce qu'elle est avec nous? Est-ce qu'elle est contre nous? Est-ce qu'elle est sioniste? Est-ce qu'elle est antisémite? Enfin, etc. Bon, oui. Donc, confusion. Alors, confusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'Union européenne, il y a confusion à peu près sur tous les dossiers, en particulier sur le dossier palestinien. Il y a confusion sur le dossier ukrainien de la même façon. Hein, parce que ce que je dis sur la position roumaine qui est flanchante, c'est retrouvé dans le cas de la Moldavie. Alors, la Moldavie, vous savez que l'élection a été tellement truquée que l'opposition qui a perdu de très très peu a entamé des recours devant les juridictions moldaves, et donc c'est pas du tout évident que le vote triché produise tous ces effets. Il y a des réactions aussi du côté de la Hongrie, des réactions du côté de la Slovaquie. Enfin, l'Union européenne est elle aussi affectée par cette espèce de tangage qui affecte le bateau occidental. Et là, il n'y a plus de pilote dans le bateau. Chacun fait la sienne. Alors, la France et la Grande-Bretagne veulent absolument faire la guerre à la Russie. Les autres doivent se poser des questions. Parce que dans le même temps, alors, je reviens sur l'Allemagne. Dans le même temps, l'Allemagne disait « Non, non, Netanyahu, on ne lui fera rien, il peut venir quand il veut ». Elle commençait à dire que la guerre en Ukraine, c'était quand même discutable, et ils ont déjà annoncé qu'ils n'envoyaient plus de matériel militaire. Donc eux, ils ont quand même un intérêt économique et social évident, c'est que du fait de la fermeture du gazoduc russe, l'industrie allemande est en train de s'effondrer, c'est-à-dire soit des fermetures d'usines, soit des délocalisations aux États-Unis, où là le gaz est moins cher. Bon. Et donc là, c'est un vrai problème pour un gouvernement allemand. Et c'est d'ailleurs ça qui explique que le gouvernement de Scholz est en pouvoir jusqu'en février, où auront lieu des élections. Et les élections vont se jouer beaucoup sur la question sociale. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore de plus en plus de chômeurs en Allemagne? Est-ce qu'il y a encore de plus en plus d'usines qui ferment? Est-ce que l'industrie allemande a encore un avenir? C'est central. Donc la question de Netanyahu, à la limite, c'est secondaire. Le central pour l'électeur allemand, c'est que va payer mon monde? Que va devenir mon pays qui était le plus puissant industriellement de l'Europe et qui est en train de faire faillite. C'est ça qui est le cœur qui va être, je pense, le cœur des débats pour les élections législatives. Alors après, on vous dira, ceux qui disent qu'il faut arrêter la guerre avec la Russie, on va dire c'est l'extrême droite, c'est bon, on va le dire. Mais en fait, le problème, il est bien celui du simple citoyen ou la simple citoyenne allemande face à l'état de décrépitude de leur économie, de leur industrie. C'est ça la réponse. Alors qu'elle vienne de tels politiciens, qu'ils soient social-démocrates, libéraux, peu importe. Quelle est la bonne réponse à cette question? Ben, les Allemands veulent que ça change. Et la condition pour laquelle ça devrait changer, c'est se réapprovisionner en gaz à des prix raisonnables et d'une façon régulière, pas sur un marché spéculatif et pas sur du gaz de schiste américain qui est vendu très cher. Alors je signale que le gaz de schiste américain qui est vendu très cher en Europe, en Pologne, en Allemagne, il y en a un peu en France, mais la France n'a pas que ça comme fournisseur, est vendu beaucoup plus cher qu'il n'est vendu sur le marché des États-Unis, évidemment, puisque quand vous êtes le seul fournisseur possible, vous êtes en position de monopole, et donc vous faites le prix que vous voulez. Ça, c'est tout à fait clair. Voilà pour cette question allemande qui débouche sur une autre affaire qui a surgi cette semaine, c'est qu'il y a un milliardaire américain qui s'est porté acquéreur pour les deux gazoducs. Alors, la société, vous imaginez bien que cette société ne transportant plus de gaz, elle n'a pas de recette, puisque la recette, c'était la vente des mètres cubes qui arrivait jusqu'à l'Allemagne. Donc, elle est en faillite. Et donc, la faillite, ça peut dire qu'il y a un repreneur qui va la sauver. Alors, il y a un repreneur qui s'est manifesté. Il y a un repreneur qui s'appelle M. Stephen Lynch, L-Y-N-C-H, et qui a dit « Moi, j'achète ». Alors, ça ne va peut-être pas se faire, mais il arrive en disant « Cette société est en faillite, moi, je mets de l'argent sur la table ». Et il dit « Comme c'est un truc un peu difficile politiquement et tout, je pense que je l'aurai pour une bouchée de pain. Ouais, le capitalisme ne perd pas ses droits. Et puis, je serai celui, ma société, si elle rachète la société qui gérait le gazoduc, sera le fournisseur de gaz à l'Allemagne. » Et de l'Allemagne, vous savez que ça pouvait partir ailleurs, en France, aux Pays-Bas, etc. Bon. Alors, je ne sais pas si ça aura lieu, mais c'est très très intéressant parce que ce personnage a longtemps vécu en Russie, il est connu en Russie, donc il connaît la façon dont se passent les affaires en Russie, et donc il intervient en essayant de placer son pion et en essayant de dire « je vais faire celui qui fait la médiation entre les intérêts du capitalisme américain, puisque c'est un capitaliste américain, et les intérêts de la Russie ». Alors je pense qu'on le voit venir à Moscou pour ce qu'il est, c'est-à-dire un monsieur qui a fait des affaires avec des sociétés, y compris avec des citoyens russes, qui étaient plutôt de la tendance à travailler avec les États-Unis. Alors cette tendance qui s'était beaucoup affirmée dans les années Eltsine et jusqu'au début des années Poutine, et qui maintenant est beaucoup plus discrète, puisqu'il a la société qui a le plus travaillé à cheval entre les intérêts occidentaux et les ressources naturelles de la Russie, c'était la société dirigée par M. Khodorkovsky, la société pétrolière et gazière Yukos, qui fait que son directeur, son président, M. Khodorkovsky, est en prison pour fraude fiscale et tout ce qu'on veut. Donc cet exemple-là fait que le genre de spéculateur à cheval entre les États-Unis et la Russie qui veut vendre les richesses naturelles de la Russie sur le marché mondial sera surveillé de près par le Kremlin. On verra ça plus tard, je vous en reparlerai, mais c'était intéressant de voir que la question est posée. Elle est d'autant plus posée que vous vous souvenez, et j'en avais parlé je crois la semaine dernière, que quand M. Scholz, il y a de ça une dizaine de jours, a appelé le président russe, alors il a commencé par l'insulter en disant « il faut arrêter de casser l'Ukraine », etc. Mais à un moment donné, Poutine lui a repris la parole et a dit « je vous signale que le deuxième gazoduc, il est à peine abîmé, il n'est même pas abîmé du tout, il y en a un qui est cassé, donc il faudra réparer, et donc il serait à réparer par la société qui reprendrait l'affaire, mais le deuxième, il suffit d'ouvrir le robinet ». Et c'est ça la réalité des choses. C'est-à-dire, si l'Allemagne disait aujourd'hui « on réouvre le robinet », M. Lynch pourrait repartir chez lui avec ses dollars parce qu'on n'aurait pas besoin de lui pour racheter l'entreprise, ne serait plus en faillite. Elle aurait des arriérés, elle aurait des dettes qu'elle pourrait rembourser avec ses recettes, mais elle repartirait du jour au lendemain. C'est ça la position russe et c'est ça qui me paraît solide dans cette opération. Bien, alors on a parlé beaucoup.
En Suède, il y a eu un sabotage de deux câbles.
Alors, alors ça devient... C'est-à-dire que, ah oui, il y a de ça une dizaine de jours, donc un conseiller de Vladimir Poutine dit « on va nous faire le coup du sabotage des câbles sous-marins ouais. ». Et alors il le dit, il l'écrit même dans une dépêche qui passe, je ne sais pas sur quel réseau social. Et dans les jours qui suivent, effectivement... on annonce qu'il y a effectivement un câble au fond de la mer Baltique, puisqu'il y en a partout, qui a été abîmé. Et il y a quelques photos qui circulent. Et de suite, comme le conseiller, M. Patrouchev, le conseiller de Poutine l'avait dit, de suite on dit « c'est les Russes ». Alors, les Russes savaient, puisqu'on allait leur mettre ça sur le dos, je veux dire, ils avaient vu venir, ils avaient vu les préparatifs, et donc, effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. On a annoncé qu'il allait avoir un câble abîmé, le câble a été abîmé, et les communiqués de presse étaient tout prêts, c'est les Russes. Bon, ça, ils sont... Maintenant, on connaît tout à fait la musique, c'est comme ça que ça se passe. Et on a eu la même chose par rapport, je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus, par rapport à un avion de messagerie civile, donc de la compagnie DHL qui fait des livraisons, qui aurait été aussi plastiqué par les Russes. Alors ça avait aussi été annoncé, on dit « oh, il y a un avion qui va atterrir en Estonie », ça c'est les Russes qui le disent, on va dire que c'est nous qui l'avons fait sauter. Et effectivement, trois jours après, l'avion saute. Alors comme si les terroristes dirent « dans trois jours, je vais faire un attentat ». En général, ce n'est pas comme ça qu'ils font les terroristes. Donc, voilà. Bon, je ne tire pas plus la leçon, vous la tirez vous-même. Bien. Et je vais vous dire quelques mots sur le Pakistan. Il y a longtemps qu'on n'en avait pas parlé, voilà. Mais ça mérite qu'on en parle. Parce que au Pakistan, vous savez ce qui s'est passé, on n'en a pas beaucoup reparlé depuis l'événement, mais enfin, il y a eu une espèce de coup d'État parlementaire organisé par l'armée et les éléments de l'armée et des services secrets pakistanais favorables aux États-Unis et très très proches des États-Unis pour faire tomber ce Premier ministre, M. Imran Khan, et faire interdire son parti. Alors, Imran Khan était très populaire et il s'était orienté sur un chemin en disant « Moi, je suis un État indépendant, je ne suis pas entre les mains ni des États-Unis, ni de la Russie, ni de l'Inde, ni quoi que ce soit. Bon. » Et donc, on allait vers une espèce de vraie détente dans cette région-là du monde, qui est compliquée avec deux puissances nucléaires qui ont toujours menacé de s'affronter, etc. On avait enfin un leader pakistanais qui semblait plus libre de ses mouvements et qui semblait vouloir tracer un chemin d'indépendance réelle pour son pays, qui est en souffrance par ailleurs sur beaucoup d'autres questions. Évidemment, il était de trop puisqu'il n'était pas entre les mains des services secrets américains et des services secrets de l'armée pakistanaise. Et donc, il est tombé, c'est-à-dire qu'il est en prison. On lui a mis sur le dos des procès pour corruption. Après, on l'a même inculpé parce qu'il avait épousé en seconde noces une personne musulmane qui était veuve, mais il s'était trompé sur le délai. C'est-à-dire, je crois que dans le Coran, il faut un an de veuvage pour qu'une veuve puisse se remarier, et il s'était trompé de quelques jours. Ben, on est dans des comédies stupides, bon, mais on cherchait à trouver des arguments pour dire qu'il avait tort. Bon, il est toujours en prison, mais ses partisans sont toujours dans la rue. C'est ça qui est important.
Dans le Coran, je crois, ils mettent 40 jours.
Voilà. Là, c'était la veuve qui était en cause. Il n'y avait pas le nombre. Bon. Ce qui est important, c'est que les manifestations donc des partisans de M. Imran Khan et les membres de son parti, tout interdit qu'ils soient, continuent à manifester. Parce qu'ils ne sont pas contents de la façon dont le Pakistan est mené. Et puis, les circonstances sont difficiles. Alors, je souligne aussi qu'il y a au Pakistan, alors il y a beaucoup de manifestations de soutien aux Palestiniens dans le monde, en particulier dans le monde musulman, et qu'au Pakistan, elles sont particulièrement importantes, comme elles sont en Indonésie aussi. Ça fait partie de la mobilisation populaire, alors que le gouvernement actuel, donc, qui a bénéficié des faveurs et des manipulations des États-Unis, n'est pas du tout sur cette ligne-là. Ça, c'est le cadre que je vous trace. Et qu'est-ce qu'on découvre à cette occasion ? Et on découvre à cette occasion qu'il y a la Chambre des représentants actuelle, qui est encore à Washington pour quelques jours, donc les élus de la précédente élection, 46 députés, donc des représentants, on appelle ça, 46 députés qui ont créé ce qu'on appelle un caucus, c'est-à-dire un groupe transversal avec des démocrates et des républicains, de soutien à M. Imran Khan et de soutien au Pakistan libre. Ah ! Et alors, ces gens-là ont fait voter, ont proposé un texte qui est passé en disant « Il faut arrêter de soutenir la junte militaire et les gens qui la soutiennent à la tête du Pakistan ». Et M. Biden se trouve bien, bien embêté par cette affaire-là parce qu'il n'avait pas vu venir l'opération. Il n'avait pas compris, et c'était mal renseigné, où on lui avait dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y avait d'abord sur le territoire des États-Unis tout un groupe de pression pakistanais très très organisé, parce que pour qu'il y ait 46 élus, moitié républicains, moitié démocrates, qui portent un texte devant la Chambre des représentants et qui le fassent voter, ça veut dire qu'ils ont des appuis dans les États, qu'il y a des comités derrière, etc. Et donc, M. Biden et son administration découvrent sur le tard, ils ont encore quelques jours pour faire avec, qu'il y a un courant de soutien à M. Imran Khan dans leur propre pays et qui devrait un peu rectifier leur politique. Alors ça m'a fait assez plaisir de voir qu'effectivement, les surprises arrivent un peu partout pour ce genre de personnage. Je regarde l'heure gentiment. Dernier pays sur lequel je veux m'arrêter un peu, c'est le Japon. Alors on n'en parle pas beaucoup parce que le Japon a ceci de particulier que c'est un pays qui ne s'est pas décolonisé. Il a été pris en charge par les États-Unis à la fin du 19e siècle, et bien pris en charge, c'est-à-dire il a été contrôlé, il a essayé de tenter sa chance en tant que puissance impérialiste et fascisante en faisant la guerre à ses voisins, en menant une grande guerre contre les États-Unis eux-mêmes, la grande guerre du Pacifique, et il a été depuis mis sous tutelle américaine. C'est clair, il y a l'armée américaine, il y a 30 000 soldats en permanence, payés par les Japonais, mais ils sont là. Il y a, oui, la constitution du Japon a été rédigée par un certain général MacArthur lui-même. Hein, voilà. Donc effectivement, ce pays, du fait, enfin, c'est une victime, il a perdu la guerre, il voulait la gagner, il l'a perdue, et celui qui a gagné, il a dit maintenant c'est moi le patron et tu m'obéis, c'est comme ça. Bon. Et cette obéissance de la bourgeoisie, de la classe dirigeante japonaise, s'est traduite par le fait qu'il y a pratiquement depuis 1945 un seul parti qui a toujours dirigé le Japon, qui est le parti pro-américain, financé par, et qui est là pour ça. De toute façon, on n'avait pas le choix. Ce qui se passe, c'est que ce parti est en crise et qui vient de perdre la majorité au Parlement. Et donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, dans la classe politique japonaise, et probablement dans les entreprises japonaises, des gens qui disent qu'il y en a assez que nous soyons considérés comme les petits derniers, alors de l'Occident, parce que, en fait, pauvre japonais, tout japonais qu'il soit, vous savez comment se présente un japonais si vous en voyez dans la rue, ça ne ressemble pas à un occidental, en vérité. Mais ils sont une espèce de roue de secours de l'Occident en Asie. Hein. Ils sont dans le G7, alors que le G7, c'est 6 blancs plus japonais, enfin, ils servent toujours de caution orientale, asiatique, à la coalition blanche, qui est la coalition des puissances colonisatrices européennes. C'est clair. Pauvre Japon, qui devrait avoir un autre destin s'il en avait envie, mais alors on est peut-être au bord de cette mutation qui serait tout à fait souhaitable, d'abord pour les Japonais, et qui changerait beaucoup la situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Japon est encore la troisième puissance économique mondiale, il ne faut quand même pas l'oublier, est entouré de voisins qui sont devenus extrêmement puissants. Je pense à la Russie, qui est sa voisine, et même qui a des frontières communes avec lui, des frontières maritimes très proches, à la Chine, qui est devenue aussi un acteur puissant. Il est confronté à cette République de la Corée du Nord, qui est là tout près, et qu'il aimerait bien voir disparaître lui aussi. Il est en tension, en permanence, avec tous ses voisins. Et donc, une autre position, alors je ne dis pas qu'il rallie les BRICS ni quoi que ce soit, mais une position plus neutre du Japon permettrait à la population japonaise de respirer un peu, de sortir de cette position de petit dernier de la classe occidentale et d'en finir avec sa défaite, parce qu'il est le petit dernier de la classe occidentale, parce qu'il a pris deux bombes atomiques sur la tête. C'est pour ça qu'il est là. Bon, donc il devrait passer là-dessus en disant ils nous ont fait ça. Alors j'insiste sur le fait que quand en août 1945, les États-Unis ont fait exploser dans le désert du Nevada leur première bombe atomique, il y a eu un débat au sein de l'état-major pour savoir sur qui ils allaient la lancer. Écoutez, sur qui ils allaient. Et le débat était, est-ce qu'on la lance d'abord sur les Allemands ou sur les Japonais ? Le choix a été fait sur les Japonais. Hein ? Pourquoi ? Parce que, alors, deux raisons qui ont encore du sens aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, il y avait, et il y a encore, des entreprises américaines qui étaient très puissantes. Et donc, il n'était pas question de détruire l'Allemagne. L'Allemagne allait servir à d'autres fins. Mais il y avait, alors je le dis, Esso, IBM, Ford et quelques autres de ce Coca-Cola qui étaient là. Bon, donc, on n'allait pas toucher une économie et réduire l'Allemagne en cendres, alors que les intérêts économiques du capitalisme américain étaient extraordinairement présents sur place. Par contre, au Japon, et ça reste vrai aujourd'hui, le Japon a cette particularité qu'il a développé dans un certain nombre de secteurs des industries où il est encore très en avance sur le reste du monde, au moins à la tête des technologies, et qu'il n'y a pas au Japon d'industrie étrangère implantée puissamment. Mais si vous regardez les fabricants d'appareils photo, les fabricants de caméras, les fabricants d'imprimantes, etc., tout ça, ce sont des monopoles japonais qui tiennent le marché mondial et qui exportent partout. Donc le Japon est une vraie puissance industrielle avec des vraies capacités. Simplement, ce pays est bridé par le fait qu'il y a 35 000 soldats américains sur son sol, la majorité à Okinawa, et il a perdu la parole sur le plan international. Bon, donc cette crise réelle donc de perte de majorité du parti pro-américain est très intéressante parce qu'elle devrait aller vers une évolution de la position japonaise. Ils ne vont pas rentrer au BRICS demain matin, mais avoir une position plus conforme d'avoir leur capacité réelle industrielle et plus conforme à leur voisinage où ils font tâche maintenant puisqu'ils sont une espèce... Enfin, c'est facile, je pourrais redire. C'est l'agent des Blancs en Asie. Hein, c'est le représentant des Blancs. Bon, c'est un peu honteux pour eux. Alors, je souhaite que, voilà, ils sortent de cette mise sous tutelle qui, je pense, pour ceux qui réfléchissent, doit être extrêmement pesante quand on a les capacités qu'ils ont par ailleurs et qui sont réelles. Voilà ce que je voulais dire et pour conclure. Et on se retrouvera évidemment mardi prochain pour une autre. Merci Roselyne. Et merci Habib.
Merci. Ouais, actuellement en Syrie.